BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler de budget puisque je reçois Laurent Saint-Martin et les députés de La République En Marche du Val-de-Marne. Surtout, c'est le prochain rapporteur du budget au sein de la Commission des Finances. Je recevrai Sophie Cluzel, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, elle est en charge des handicapés. Elle vient de signer aujourd'hui une charte avec des entreprises et des syndicats pour essayer de faire que les handicapés trouvent un emploi dans les entreprises. Et justement, lui, il l'a signé ce matin. Mais il est avec nous, on parlera peut-être aussi de travail de nuit. Alain Griset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'UDP, vous avez signé cette charte, c'est ce que vous me disiez. Mais avec vous, donc travail de nuit, retraite, est-ce que peut-être les avocats vont aller manifester le 5 décembre? Vous nous direz ça dans un instant. Pour l'instant, c'est Thomas Asportas qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal avec EDF. EDF qui nous dit qu'il travaille sur un nouveau modèle d'EPR, un EPR plus économique. C'est ce que vient de déclarer il y a quelques minutes Jean-Bernard Lévy lors d'une audition au Sénat. EDF vise un coup avec cet EPR sur 60 ans de 65 à 70 euros le mégawattheure. Parce que vous savez que malgré les déboires de Flamanville, eh bien EDF pourrait construire 3 nouvelles paires d'EPR en France dans les prochaines années. Saint-Gobain annonce une très grosse acquisition, 1,4 milliard de dollars pour la société américaine Continental Building Products, une société spécialisée dans les plaques de plâtre. C'est la première activité industrielle de Saint-Gobain à l'échelle mondiale et le groupe veut donc se renforcer sur ce marché sur le sol américain. Le PDG de Saint-Gobain ajoute que le groupe va continuer de regarder les possibilités d'acquisition en 2020. C'est un nouveau gros revers pour l'avion militaire d'Airbus. L'Allemagne refuse de prendre livraison de 2 à 400M. L'armée allemande se plaint des problèmes techniques récurrents du modèle et du fait que ces deux avions en particulier ne présente pas les garanties qui avaient été avancées. Une bonne nouvelle en revanche pour l'Allemagne puisque Tesla a choisi l'Allemagne pour sa première usine européenne, une immense usine dans la banlieue de Berlin pour produire des modèles 3, des modèles Y, le futur crossover de la marque et des batteries. L'usine doit démarrer en 2021. Tesla représente 30% des ventes en Europe de voitures électriques à batterie. L'actualité de la mi-journée, c'est aussi ce rétro-pédalage du gouvernement sur le travail de nuit dans les commerces alimentaires. La question a été renvoyée à l'été prochain après une concertation de 6 mois avec les partenaires sociaux. Au départ, le gouvernement devait présenter aujourd'hui en Conseil des ministres, justement à la mi-journée, à l'heure où on se parle, une disposition pour autoriser le travail jusqu'à minuit au lieu de 21h. Mais les modalités seront donc définies plus tard et le texte présenté aujourd'hui ne fait qu'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance. Les défaillances d'entreprises reculent, elles sont en baisse de 0,7% à fin août sur un an et ce recul pourrait même s'accentuer à 1,9% à fin septembre, d'après les données provisoires de la Banque de France. Les reculs des défaillances sont les plus marqués dans les secteurs de la communication, du commerce et de l'immobilier. Et puis on va finir ce journal avec un autre chiffre qui recule, et là aussi c'est une bonne nouvelle, c'est le nombre de contribuables fortunés qui quittent la France. D'après les derniers chiffres de Bercy, le nombre de déclarations d'exit tax a baissé de 30% en 2017, l'année où le gouvernement a présenté ses deux grandes réformes fiscales, la transformation de l'ISF en IFI et la mise en place de la flat tax. BFM Business, il est midi 3, on retourne sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 recule, on est repassé sous les 5900 points, 5889 points, moins 0,51 points la mi-journée, l'euro dollar est stable. Pour sa part, 1 euro s'échange pour 1,1014.
Merci Thomas. Suivant Alain Griset, le président de l'UDP. Question, il y a beaucoup de questions. A tout de suite.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour, Alain Griset. Travail de nuit, hein, c'était là-dessus que je vous avais demandé de venir parce qu'il y a un texte. On sent qu'il est en train plus ou moins d'être retiré. Enfin, en tout cas, il a été présenté en Conseil des ministres. Mais je voudrais peut-être vous poser une question d'abord sur les chiffres de la conso. Est-ce qu'ils se tiennent? Est-ce que c'est plutôt bon pour vous? L'UDP, on va rappeler, c'est essentiellement les artisans, les commerces. Donc, c'est important comme thermomètre.
Artisans, commerçants, professionnels, libéraux. Oui. 2 800 000 entreprises. En gros, depuis 3 trimestres, on a une augmentation régulière, environ d'1,5%. Alors, avec naturellement dans les entreprises des diversités, mais néanmoins une tendance qui est plutôt à la hausse du chiffre d'affaires.
Oui, donc plutôt positif. On a entendu les chiffres de défaillance d'entreprise, notamment dans le commerce. Ça s'améliore là aussi. Est-ce que vous confirmez?
Oh bien, c'est le corollaire avec l'activité qui s'améliore. Après une très longue période de difficultés, on voit là une petite reprise, mais qui pour nous génère un certain nombre de sujets. En particulier, on l'a évoqué il y a déjà quelques semaines, les difficultés au recrutement. Là où il y a besoin de manœuvre, aujourd'hui, nos collègues ont beaucoup de difficultés de trouver les salariés dont ils ont besoin.
Oui. Travail de nuit alors. Est-ce que je recevais Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, qui a dit pour lui c'est inacceptable, on n'a pas à suivre les mouvements de... Enfin, nos salariés, nos adhérents n'ont pas à être victimes des évolutions de société parce qu'on a tous besoin d'essayer de faire nos courses quand on sort tard le soir ou le dimanche. Est-ce que pour vous c'est aussi inacceptable?
Tout d'abord, les gens qui disent qu'ils veulent faire les courses le soir, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient de travailler le soir. Mmh. Et naturellement, c'est inacceptable. Pourquoi ? Parce que nos collègues artisans commerçants sont dans l'impossibilité d'ouvrir aussi longtemps. Déjà, ils ont des plages d'ouverture très grandes. Quand vous avez 3, 4, 5 salariés, il est impossible de faire travailler vous-même, d'aller travailler vous-même ou les salariés aussi tard. Et donc là, il faut que le gouvernement soit cohérent dans son action. Le gouvernement constate qu'il est nécessaire de revitaliser les centres-villes, de rééquilibrer les territoires. Et là, il met en place d'abord une concurrence qui n'est pas loyale, puisque certains pourront le faire et d'autres pas. Et en plus, il va affaiblir nos collègues artisans commerçants dans les centres-villes. Et donc, naturellement, pour nous, c'est totalement inacceptable d'envisager cette solution.
Oui, parce que c'est un taxe qui peut favoriser énormément les grandes surfaces.
Naturellement.
Vous avez raison de souligner, ça peut paraître contradictoire avec cette volonté affichée, en tous les cas, de renforcer les centres-villes.
Le « en même temps » ne fonctionne pas dans cette situation-là. On ne peut pas à la fois vouloir revitaliser les centres-villes et favoriser la grande distribution qui est en particulier en périphérie. Donc là, il faut une position très claire qui permet à chacun de travailler dans des conditions équilibrées, d'équité, de traitement, ce qui n'empêche pas les consommateurs d'avoir globalement chez nos collègues une prestation suffisamment ample pour être servie.
Donc je pense que le gouvernement a senti un petit peu le danger, donc présenté quand même, mais a priori plutôt un peu repousser, voire annuler.
Le fait qu'on rentre dans une négociation, tant mieux, on y participera. Mais avec la ferme attention de mettre en avant nos arguments, de façon à ce qu'au bout du compte, ce projet tel qu'il était prévu ne voit pas le jour.
Mais sur la question toujours que je posais à Verrier de FOC, est-ce que vous voulez les mêmes garanties que pour le travail le dimanche ?
Non, en ce qui nous concerne, c'est même pas une question de coût ou de garantie. C'est une impossibilité de faire. Et naturellement, quand on est dans la possibilité de faire, après les conditions, peu importe, on ne peut pas le faire.
Comment est-ce que la genèse de ce texte ? Parce qu'on se demande un peu pourquoi un texte pareil sort du chapeau maintenant, alors que c'est sûr qu'il y a un climat social un peu dangereux, qu'il y a un risque de contagion. On se demande pourquoi ça sort là ?
Parce que la grande distribution, on n'en a jamais assez. Il y a toujours une demande très forte auprès du gouvernement et que peut-être dans le gouvernement ou dans les administrations, certains ont une oreille plus attentive à ces demandes qu'aux autres.
Donc pour vous, c'est vraiment la grande distribution qui est derrière ce texte ?
Je ne vois pas qui pourrait l'être en dehors d'eux.
Oui. Au moins, ça le mérite d'être clair. Les retraites, alors vous avez deux casquettes, hein, vous le disiez, il y a le commerce artisan et puis le volet libéral, puisque maintenant ça s'appelle l'U2P. Est-ce que les avocats notamment, est-ce que certains de profession libérale seront dans la rue le 5 décembre ?
Tout d'abord, l'UNAPL, qui est l'organisation au sein du 2P qui représente l'Union libérale, a indiqué qu'elle n'appelait pas le 5 décembre un mouvement de protestation. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours dans la phase de concertation, de négociation. Nous avons obtenu à l'U2P, du gouvernement, du Premier ministre et naturellement du Haut-Commissaire, le fait qu'il y aura des négociations métier par métier. Parce que naturellement, dans les professions libérales, il y a beaucoup, beaucoup de caisses. Encore, il y a encore 11 caisses. Il y a des particularités très importantes entre les infirmières, les avocats, les médecins. Et donc, nous, ce que nous avons demandé, souhaité, c'est qu'il y ait une négociation profession par profession, de façon à ce qu'au bout du compte, la réforme des retraites ne pénalise pas les professionnels. Si, par hasard, les réponses n'étaient pas satisfaisantes, légitimement, les professionnels libéraux, mais également les artisans commerçants qui seraient solidaires, le feraient savoir de la façon la plus appropriée.
Et c'est quoi la façon la plus appropriée ?
Naturellement, c'est de le dire très clairement et peut-être un jour de manifester. Pourquoi pas ?
Mais en tous les cas, pas le 5 décembre ?
Pour l'instant, pas. On est vraiment dans la phase de négociation.
Mais est-ce que vous aurez une réponse sur ces 11 régimes d'ici le 5 décembre ?
Non, sûrement pas.
Non, sûrement pas. Donc,
sûrement pas. Mais en tout cas,
la décision, soit vous la prenez maintenant, soit vous la... Enfin, ou l'UAPL, soit vous la prenez pour plus tard.
Non, on la prendra pour plus tard.
D'accord.
Si c'est nécessaire. Pour l'instant, on a obtenu ce qu'on a demandé. C'est-à-dire le fait d'avoir une négociation par profession. À partir du moment où on obtient ce qu'on demande, on ne va pas commencer à manifester.
Alors, profession par profession, c'est-à-dire la clause du grand-père, elle pourrait s'appliquer à ces 11 régimes spéciaux, même s'ils ne sont pas spéciaux dans le sens...
Ce qui est appelé la clause des grands-pères, pour nous, ne peut pas exister pour une partie des Français. Il y a deux solutions. Ou il y a une réforme des retraites, avec un délai, Jean-Paul Delevoye a dit que ça pouvait être 10 ans, 15 ans, pourquoi pas. Ou elle s'applique pas du tout. Parce que si on dit que pour les régimes spéciaux, SNCF, RATP, EDF, il y a la clause des 40 ans, la clause du grand-père, pourquoi pas pour les médecins, les avocats, les notaires, les artisans qui sont aussi amenés à avoir des changements.
Vous refusez la clause du grand-père pour certaines catégories, parce que Jean-Paul Delevoye, lui, il refuse la clause du grand-père pour qu'elle soit généralisée, parce qu'à ce moment-là, c'est repousser la réforme des retraites au calendrier grec.
Mais là, encore une fois, la réforme... Ce que Jean-Paul Delevoye a dit, c'est que la réforme devait être équitable. au bout du compte. À partir du moment où on recommence à dire, mais oui, mais alors, on va traiter de façon très très particulière telle ou telle entreprise, puisque si on prend la RATP, je veux dire, le chauffeur de bus de Lyon, de Lille et Marseille, il fait le même travail, il n'est pas concerné par le statut de la RATP. Et donc là, ça pose un certain nombre de problèmes, c'est vrai qu'ils ne concernent pas nos entreprises, mais il faut bien voir quel est l'objectif.
Non, puis en plus dans la RATP, il faut quand même voir que ça fait partie de la rémunération, c'est-à-dire que vous êtes embauché et on vous dit, vous n'êtes pas très bien payé, mais en plus, vous aurez une bonne retraite. Ça fait partie du package global hein, à la RATP. Donc,
c'est pour ça qu'il faut, sur ce sujet, comme pour les infirmières par exemple, les infirmières, il y a une question de cotisation, mais elles ont une rémunération qui est aujourd'hui ridicule.
Oui, bien sûr.
Et donc on dit, si on touche à la retraite, on doit regarder la totalité de la situation des infirmières. Je pense que Jean-Paul Delevoye, en tout cas, nous l'avait dit, pour la RATP, il est normal qu'on regarde, au-delà de la retraite, la rémunération et les conditions
comme
de travail.
Pour les enseignants.
Et pour les enseignants, mais naturellement. Oui. Ça ne doit pas être une pénalisation, les retraites.
Et donc, vous demandez, Alain Griset, vous demandez la même chose pour les professions libérales, c'est-à-dire qu'on étudie au cas par cas.
Mais naturellement. Ouais. Pourquoi
Ça fait beaucoup de clauses du grand-père.
Hein, eh ben, oui. C'est pour ça que dès qu'il y a cette possibilité mise en œuvre, elle va générer des demandes nombreuses et justifiées.
Parce que mais pour l'instant, est-ce que vous avez eu un élément de réponse sur l'éventuelle possibilité d'avoir une clause du grand-père pour les avocats, pour les infirmières ou pour d'autres professions libérales?
Non. Pour la bonne raison, c'est qu'on n'a pas demandé pour l'instant. Ouais. Puisqu'on est dans une négociation qui doit aboutir au fait de la prise en compte spécifique des difficultés particulières liées à la retraite et à la réforme pour ces professions. Si on trouve, par exemple pour les infirmières, des conditions de rémunération qui permettent au bout du compte de cotiser plus, pourquoi pas ? Mais on en est loin pour l'instant.
Oui. Oui, il y a une étude qui a été faite, là, qui a été révélée par le contrat du Figaro, qui montrait que ça pourrait coûter l'adaptabilité, on va dire ça comme ça, pourrait coûter 13 milliards d'euros. Donc c'est vrai qu'on se demande où est-ce qu'on pourra les trouver, qu'est-ce qui peut se passer. Et sur les histoires de cagnottes, notamment, puisque je recevais la bâtonnière de Paris, il y a des histoires de cagnottes aussi. Qu'est-ce qu'elles deviennent, par exemple, pour les avocats? Pour vous, plus précisément, il y a des histoires de cagnottes aussi?
D'abord, il n'y a pas de cagnottes.
Il y avait
les caisses qui ont bien géré leur avenir, qui ont demandé à des professionnels de cotiser pour que l'avenir soit préservé. C'est les cigales et les fourmis, vous savez. Donc là, il n'y a pas question, à un moment donné, que ce qui a été mis de côté par les professions s'en vend dans un pot commun. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que ces réserves, plus que des cagnottes, soient au bénéfice des professions qui les ont mises en place.
Oui. Sur la question de l'assurance chômage, est-ce que ça a un impact pour les artisans et les commerçants?
Ça a un impact parce qu'il y a une partie de nos collègues qui sont concernés par les CDD. Par exemple, les traiteurs. Et les traiteurs n'utilisent pas CDD par plaisir. Ils l'utilisent parce que vous avez une communion, vous avez un mariage, et ils ont besoin, pendant deux jours, d'avoir une masse plus importante de collaborateurs. Donc là, pour un certain nombre d'entre eux, qui ont plus de 11 salariés, ils vont avoir une pénalisation pour ces contrats courts. Nous, on pense que dans ces cas de figure-là, on devrait encore pouvoir faire un progrès et éviter que ces collègues soient pénalisés.
Puisqu'on parle de budget dans le RH avec Laurent Saint-Martin, le futur rapporteur, vous avez obtenu, vous parliez de lobbying tout à l'heure à propos de le travail de nuit en disant que c'était un lobbying de la grande distribution, sinon qui d'autre. Vous avez fait un lobbying en l'occurrence pour qu'il y ait des suppressions d'avantages fiscaux sur les créations d'entreprises. Est-ce que est-ce que pour vous c'était mérité, c'est une manière de protéger vos artisans?
Si vous permettez, je vais le dire d'une autre façon. Nous, on n'a pas de difficulté à ce qu'il y ait des avantages fiscaux, à condition qu'ils soient pour tous pareils. La question qui est primordiale, je l'ai dit tout à l'heure pour la grande distribution, c'est dans ce pays, est-ce qu'on a l'équité de traitement dans une même activité, dans le même métier? Est-ce que le maçon qui exerce à Lille, en fonction de son régime fiscal et social, paiera plus ou moins de cotisations? Non, il est maçon, il doit payer les mêmes droits, les mêmes devoirs, cotisations identiques. Donc s'il y a des avantages fiscaux pour telle ou telle personne, ils doivent être étendus à tous ceux qui exercent le même métier.
Oui, mais enfin, le résultat, c'est qu'après, c'est supprimé, donc ça va être mauvais pour la création d'entreprise.
Non, mais quelle création d'entreprise, il puisse y avoir des facilitations, en particulier de tout ce qui est formalité, qui puisse avoir un coup de pouce à la création, nous avons toujours été favorables. Vous savez, toutes les personnes qui sont chez nous ont créé leur entreprise. Mais ça ne peut pas être pérenne dans le temps. Et ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que les exonérations et les facilitations fiscales, elles sont pérennes dans le temps. Ce qui, naturellement, crée une concurrence déloyale. La concurrence n'existe que si on est sur un pied d'égalité. Sinon, on est dans le western. Et dans le western, en général, il n'y a pas beaucoup de...
Donc, vous êtes satisfait d'avoir obtenu cet amendement ?
Pour l'instant, il n'est pas voté.
Oui.
Nous, on pense que ça va dans la bonne direction. Et si jamais il y en a qui considèrent qu'il faut que l'amendement reste, eh bien, qu'on l'étende à tous ceux qui sont en activité.
Oh, ben, je ferai passer le message à notre Laurent Saint-Martin, donc, qui sera notre invité d'ici à peu près un gros quart d'heure. Merci beaucoup,
Merci
Alain Cluzel, d'avoir été avec nous, le président de l'UDP. Dans un instant, c'est donc Sophie Cluzel, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre qui s'occupe des handicapés. Vous avez signé cette charte pour des handicapés. Vous êtes engagé sur un montant, un chiffre ou pas ?
Non, pas du tout, mais sont engagés à mobiliser nos entreprises pour que ces hommes et ces femmes puissent être intégrés dans le monde du travail. Sans le savoir, vous savez, il y a beaucoup de collègues qui font travailler des handicapés. Mais on peut sûrement aller plus loin, et donc UDP fera tout ce qui est possible de faire pour
que
ça soit le cas.
Souvent, entre la volonté affichée et le souhait à la tête, c'est plus compliqué en dessous. Merci beaucoup.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invitée, c'est Sophie Cluzel, elle est secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées. Merci d'être avec nous, Sophie Cluzel. Ça fait deux ans et demi forcément que vous vous occupez de ce secrétariat. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités évoluent un peu ?
Je pense que les mentalités évoluent
beaucoup. On voit sur les Jeux Olympiques, maintenant, ils sont associés. Enfin, il n'y a plus l'ostracisme qui existait, du moins, dans le sport. Est-ce que c'est vrai un peu dans le reste de la société ?
Ça change beaucoup. Le regard change. La compétence des personnes est enfin vue pour tout, hein, pour une participation sportive, culturelle, sociale. Il faut encore qu'on s'améliore, c'est indéniable, pour donner toutes les chances aux personnes. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on voit les personnes avant leur handicap. Et donc, leur donner la chance de s'exprimer. La pleine participation des personnes, il faut absolument qu'on donne la parole aux personnes pour qu'elles expriment leurs désirs, mais aussi leurs talents. Donc, c'est tout l'enjeu de mon rattachement auprès du Premier ministre pour changer la donne dans l'école, dans l'emploi, dans la culture, dans le sport.
Oui, et changer dans l'entreprise, parce que justement, si vous êtes là, c'est que vous avez signé ce matin une charte avec des grands dirigeants d'entreprise, enfin aussi Alain Griset, on en parlait à l'instant, donc c'est plutôt au nom des commerçants et des artisans, pour qu'il y ait plus de handicapés qui travaillent dans nos entreprises. Cet engagement de grands dirigeants, c'est important, parce que c'est une manière de montrer l'exemple, mais il faut que ça suive, il faut que ça descende ensuite.
C'est un manifeste pour l'inclusion avec 10 points de manifeste qui ont été travaillés par les entreprises pour les entreprises. J'avais missionné deux ambassadeurs, Christian Sanchez de LVMH et Jean-Pierre Le Tartre de EY, pour aller expliquer et mobiliser les patrons sur la façon dont ils pouvaient s'engager. Aussi bien sur la formation, sur l'emploi, mais aussi sur les achats responsables, sur la diversité dans l'entreprise, sur le changement de culture et de regard que leurs DRH peuvent porter sur les recrutements des personnes handicapées. Donc, 10 engagements et qui peuvent tout à fait aider les entreprises à s'engager là où elles sont. Mmh. Il y a beaucoup d'entreprises, les grandes entreprises se sont emparées de cette dynamique d'embauche et de progression. Moi, j'aimerais qu'on parle carrière des personnes handicapées, qu'on parle vraiment la sémantique commune à tout collaborateur, à tout salarié, pour qu'on puisse offrir justement une carrière et un choix, une diversité de professions pour les personnes en situation de handicap. Donc je pense que cet engagement, ce n'est pas qu'une vitrine, parce que d'abord ça a été travaillé par les entreprises.
Mais est-ce qu'il y a des... parce que je suis un peu obsédée par le fait que ça devienne une réalité. Pardon du parallèle, tout le monde parle de raison d'être, transition écologique, puis quand vous voyez la réalité des choses, il y a quoi douter. Là, il s'agit de personnes, enfin, de cas vraiment difficiles. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés ? Est-ce que ça soit Engie, LVMH ou même ici, est-ce qu'ils sont engagés à dire, je vais en embaucher 1%, 2%, 3%, 4%,
ils se sont
5%.
Tous engagés pour atterrir sur le quota, pour ceux qui n'y sont pas, mais il y en a beaucoup qui sont dépassés ce quota. Le groupe La Poste, ils sont à 8,5% par exemple. Mmh. Et là, ils ne travaillent plus sur l'emploi, mais ils travaillent sur le maintien, le développement de carrière, la désinsertion professionnelle. Donc, il y a déjà des grandes entreprises qui sont très en avance, je dirais, sur la richesse. Est-ce que c'est une vraie richesse de la diversité au sein de leur entreprise ? C'est remettre en cause leurs process managériaux, c'est travailler en performance, en productivité, en bien-être pour l'ensemble des salariés. Et ils ont bien compris depuis longtemps que quand on s'occupe des personnes qui ont le plus de besoins, on s'occupe de tout le monde. Donc l'intérêt, c'est que ces grands patrons, ils puissent parler, dire quels process ils ont mis en place. Ils ont souvent mis en place les mêmes process, par exemple, que pour l'égalité femmes-hommes. Eh bien, très bien, disons-le, et qui tendent la main, justement, aux TPE-PME. C'est pour ça que c'était très bien que le patron de l'UDP soit là, parce qu'on a besoin aussi de cette richesse de pratiques de bonnes pratiques professionnelles à faire savoir et à faire connaître.
Mais est-ce que vous, qui êtes concerné, qui connaissez le sujet, qui est très mobilisé, est-ce que vous ne redoutez pas cet effet comme qui peut exister ?
Non, ce que je veux, c'est l'effet d'entraînement.
Oui.
C'est l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que tous les essais qui ont été faits, il faut qu'on les transforme et qu'on les généralise. C'est bien ça, l'impact. Quand un grand patron dit « j'en fais une priorité », je suis désolée, ça, dans toute son entreprise après,
mais
c'est pris en compte dans les managers.
C'est pas la première fois. Vous êtes déjà venu aussi nous expliquer. Il y avait le couple aussi, c'est-à-dire que les entreprises s'engageaient à avoir un salarié avec une personne handicapée.
Ça, c'est un succès.
Oui, ça a marché.
C'est un succès. 25 000 duos qui ont été faits, derrière des stages, des CDD, des CDI. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir ouvrir la porte des entreprises et que les personnes en situation de handicap puissent exprimer leur talent, leur façon différente de travailler et voir l'apport qu'elles peuvent avoir dans les entreprises. Donc, nous valorisons toutes les formes d'emploi en entreprise. Les stages, l'intérimaire, la mise à disposition, l'intérim. Très beau levier. Très, très beau levier. C'est pour ça que j'ai signé une grosse convention avec Prisme Emploi pour travailler sur l'intérim des personnes en situation de handicap. Tout ce qui permet d'acculturer à la différence, ouvrir la porte de l'entreprise, va après déboucher sur un axe et sur une action. Donc, ce n'est pas que de la com. Non, ce sont des engagements.
Non, mais je ne dis pas que vous êtes dans la com. Hein.
Ce n'est pas de la com pour les entreprises.
Il faut qu'elles s'approprient. Ça. Vous avez fixé des objectifs chiffrés d'emploi ?
Chaque entreprise a des niveaux déjà d'atteinte d'emploi différentes. Mmh. Ceux qui sont en dessous de 6, mon objectif c'est 6. De toute façon, 6%, c'est le quota, c'est la barre du quota qui a été consensuellement. Pour autant, la politique de quota elle ne suffit pas, parce que depuis 1987, il existe ce quota. 30 ans, hein, on est qu'à 3,8% dans les entreprises
privées. Mais parce qu'il y a des sanctions supplémentaires, un peu comme dans les
femmes en politique. Mais il y a des sanctions.
Il y a des sanctions, mais il faut peut-être les relever.
Mais il y a des sanctions, elles existent.
C'est comme à l'Assemblée nationale, hein, si vous voulez, il faut des quotas.
Oui, mais il faut surtout des process et de la simplification. Ouais. Aujourd'hui, force est de constater que la politique d'aide et d'accompagnement, elle est illisible. C'est un maquis, nous le disent tous. C'est pour ça qu'on y va à fond sur la simplification. La complexité de déclaration, ce n'est plus du tout une excuse. Puisque ça sera automatisé, embarqué dans la déclaration sociale nominative. C'était quand même parfois plus de X mois de comptable pour pouvoir faire cette déclaration. Ça, c'est fini. Donc déjà, ça, c'est plus une excuse. On peut plus se retrancher sur la complexité de déclaration. Mais maintenant, ce qu'il faut, ils me disent tous, c'est comment on match des compétences. D'abord, des compétences avant tout. C'est pas le handicap qu'on embauche, ce sont des compétences.
On va parler de l'école inclusive, Sophie Cluzel, mais peut-être d'abord de l'apprentissage, de la formation. Grande loi, grande transformation de l'apprentissage, en tout cas portée par le gouvernement. Est-ce que les handicapés sont concernés ?
Évidemment.
Et à quelle hauteur ?
Alors aujourd'hui, 1% d'apprentis handicapés. Hein, alors qu'on sait que 70% des contrats d'apprentissage amènent vers l'emploi durable. Donc là aussi, 6%. Pour tout le monde, arrêtez de nous dire que l'apprentissage est compliqué. Mais parce que c'est le levier. Ouais. Et l'apprentissage peut être valorisé aussi dans l'emploi. Donc c'est une façon de rendre son obligation d'emploi effective. 1%. Donc j'ai travaillé avec Muriel Pénicaud sur les CFA, les centres de formation, avec une mise en réseau de tous les CFA adaptés pour les jeunes. Et les moins jeunes, parce que justement, grâce au handicap, on peut être apprenti beaucoup plus longtemps. Eh bien, là, nous allons pouvoir avoir du sourcing, puisque les entreprises me disent, on ne trouve pas les compétences. Eh bien, donc, nous allons, grâce à l'apprentissage, pouvoir leur trouver les compétences et les faire monter en qualification. Oui. Aujourd'hui, sur les 500 et quelques mille demandeurs d'emploi handicapés, plus de 2/3 ont un niveau de bac ou infra-bac. Donc, le problème majeur des compétences, il est encore plus prégnant chez les personnes handicapées.
Sophie Cluzel, je voudrais qu'on parle de l'école inclusive, parce que Jean-Michel Blanquer s'en occupe, mais avec vous. Hein. Bien sûr, il y a un rapport qui a été remis le 4 novembre en disant que les choses s'amélioraient. En même temps, il y a une mobilisation des accompagnants des élèves en situation de handicap. C'est ceux qui accompagnent, justement, au sein de l'école. Et visiblement, ça a l'air quand même très compliqué, les problèmes de rémunération, de salaire. Bah, moi-même, en vous recevant, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui disent mais c'est la pire rentrée scolaire qu'on ait jamais eue.
Non, je ne peux pas laisser dire ça.
Voilà,
non,
mais
je m'insurge.
Je vous pose la question,
c'est
mais
pas
parce
la pire
qu'ils vous écoutent. Hein,
vous savez, c'est la 23e rentrée scolaire. Je peux vous dire que c'est la meilleure qu'on en ait fait parce que l'école inclusive, c'est une réalité. Le service public de l'école inclusive, il est en route. Nous avons plus de 25 000 élèves handicapés qui ont franchi la porte de l'école. En un an, c'est 50 000 élèves accompagnés de plus par des accompagnants.
Il y a des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages, pas seulement évidemment sur les réseaux sociaux, mais de gens qui disent qu'on a une vraie difficulté. Il n'y en a pas assez, évidemment, mais d'où la mobilisation le 20 novembre.
Alors, si vous voulez, quand on bouleverse un système, quand on ouvre les portes de l'école, quand l'école se met en ordre de marche, bien sûr qu'il faut des ajustements, on ne va pas le nier, mais comment on peut se rendre compte de cette dynamique qui existe. L'école s'est ouverte non seulement aux élèves, aux accompagnants, mais aux professionnels du médico-social. C'est-à-dire que les parents, parfois, n'ont plus à s'interrompre dans leur temps de travail pour aller amener à l'orthophonie, etc., parce qu'il y a une vraie coopération dans l'école. Alors, bien sûr qu'il y a des ajustements, mais je tiens quand même à rappeler à vos téléspectateurs, et vraiment, plus aucun accompagnant en contrat aidé. C'est une révolution. Ça fait 20 ans.
Ils sont en contrat quoi ?
Ils sont en contrat éducation nationale de 3 ans renouvelable une fois. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus comme des membres à part entière de l'éducation nationale. Alors nous sommes en train de travailler justement pour que ça se fluidifie, qu'il n'y ait plus de rupture de parcours. C'est le cas puisqu'il n'y a plus de contrat aidé. Donc il y a une stabilité des professionnels. Ils sont pris en compte dans la communauté éducative. Le ministre de l'Éducation l'a mis dans le dialogue social pour améliorer leurs conditions de travail. Donc je dis, s'améliore.
D'accord,
il y a encore
s'améliore.
Énormément. Ça s'améliore énormément. Il y a encore des ajustements. Mais c'est normal parce qu'il y a
rupture,
un vrai
mais
mouvement.
C'est dû
il n'y a plus de point de rupture. Il n'y a plus de point de rupture sur les accompagnants. Plus de point de rupture. Mais il y a encore quelquefois des contrats, de transferts de contrats qui étaient précaires en contrat éducation nationale, qui ont demandé des ajustements. Ouais. Mais je voudrais quand même qu'on réalise le saut qualitatif et quantitatif qu'on en fait. C'est vraiment une école inclusive qui est en train de se mettre en place. Et c'est comme ça qu'on travaillera à l'entreprise inclusive. Ouais. Parce qu'on améliore la qualité de la formation
et les parcours
des élèves.
La formation, l'apprentissage, les écoles, les grandes écoles.
Il faut que tout le monde
monte
en qualification. Et il faut donc oser cette formation et oser l'emploi après, derrière. Pour ne pas justement... Vas-y.
Il ne faut pas décevoir
cet élan énorme qu'il y a sur la formation pour les porter ensuite vers l'entreprise.
Et donc
inclusive.
Cette charte que vous avez signée sur l'emploi...
Sans patron mobilisé, voilà. Je tiens à le signaler, vraiment une belle mobilisation. Grand patron, PME, TPE, c'est vraiment ensemble, osons l'emploi.
C'est comme ça que ça peut faire bouger les choses.
Exactement.
Merci beaucoup Sophie Cluzel.
Merci
en tout cas, c'est pour ça qu'on vous a invité.
Merci.
Sur BFM Business. Sophie Cluzel, donc, était notre invitée dans un instant. C'est celui qui tient un peu les cordons de la bourse, hein, et parfois avec peut-être un tout petit peu trop serré. C'est Laurent Saint-Martin, député de La République En Marche du Val-de-Marne. Il est membre de la Commission des Finances. C'est le futur rapporteur du budget. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Laurent Saint-Martin, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous avoir. Première fois sur le plateau de BFM Business. Futur rapporteur du budget à la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Tout de suite, le rappel des titres, Thomas Asportas.
Et EDF qui travaille sur un nouvel EPR, un EPR plus économique d'après la dernière déclaration de Jean-Bernard Lévy. C'était il y a quelques minutes lors d'une audition au Sénat. EDF qui divisait un coût sur 60 ans de 65 à 70 euros le mégawattheure, puisque vous savez que malgré les déboires de Flamanville, eh bien EDF pourrait construire dans les prochaines années 3 nouvelles paires d'EPR en France. Saint-Gobain annonce une très grosse acquisition, 1,4 milliard de dollars pour la société américaine Continental Building Products, une société spécialisée dans les plaques de plâtre. C'est la première activité industrielle de Saint-Gobain à l'échelle mondiale et le groupe veut donc se renforcer sur ce marché, sur le sol américain. Le patron de Saint-Gobain ajoute que le groupe va continuer de regarder les possibilités d'acquisition en 2020. C'est un nouveau coup dur pour l'avion militaire d'Airbus. L'Allemagne refuse de prendre livraison de 2 A400M. L'armée allemande se plaint des problèmes techniques récurrents du modèle et du fait que ces deux avions, précisément, ne présentent pas les garanties qui avaient été avancées. Et puis pour finir, ça c'est une bonne nouvelle pour l'Allemagne, Tesla a choisi justement l'Allemagne pour sa première usine européenne, une immense usine dans la banlieue de Berlin, pour produire des modèles 3, des modèles Y, ça c'est le nouveau crossover de Tesla, et des batteries. L'usine doit démarrer en 2021. Tesla, pour rappel, représente quand même 30% des ventes en Europe de voitures électriques à batterie. BFM Business, bientôt midi 33, je vous redonne le CAC. À la mi-journée qui recule, on abandonne 0,47%, on est repassé sous les 5900 points, on est à 5891 points. L'euro-dollar, lui, est parfaitement stable. Un euro s'échange pour 1,1008 $.
Laurent Saint-Martin, notre invité, dans un instant. Merci, Thomas.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Il est député de La République En Marche du Val-de-Marne, il est membre de la Commission des Finances. Laurent Saint-Martin, merci d'être avec nous encore une fois. Et donc, futur rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. En fait, pourquoi ? Parce que vous tournez, c'est ça ?
Parce qu'effectivement, La République En Marche est engagée, c'est inédit, à changer un certain nombre de fonctions à responsabilité à mi-mandat.
Ouais.
Et il a été convenu que Joël Giraud faisait la première partie du mandat comme rapporteur général du budget, moi la seconde. Donc voilà, chose promise, chose due.
Et pourquoi ça ne se passe pas au niveau du président du groupe. Gilles Legendre, lui, il a dit qu'il restait.
Non, il n'a pas dit qu'il restait, il s'est représenté. Ouais. La nuance est de taille. Il s'est représenté devant l'ensemble des membres du groupe La République En Marche. Il a été réélu dès le premier tour, dont acte. Ouais. Il reste donc président du groupe. Tous les postes ont été remis en jeu. Tous les postes ont été soumis à une élection.
Oui, mais en même temps, le point de départ, c'était justement, il est en même temps naturellement, c'était de ce que vous faites avec Jean-Noël Giraud, que j'ai reçu il y a quelques semaines.
Joël Giraud.
Changer, c'est tourner.
Oui, non mais évidemment, il y a des postes sur lesquels il y a des changements parce que les membres le décident. Puis il y en a d'autres où on décide de prolonger le mandat de la personne. Nous, ce qu'on décide surtout, c'est de faire vivre la démocratie au sein du groupe. Mmh. Donc voilà, il paraissait assez sain de permettre à ceux qui l'avaient exercé de se représenter pour représenter un bilan. Voilà, comme ça se fait de bon ton en démocratie. Et c'est le cas de Gilles Legendre, mais il y a aussi d'autres présidents de commission qui ont été réélus et c'est tant mieux.
Alors, budget 2020, donc, comme vous disiez à l'instant, tout est un peu sur la table, mais il y a quand même quelques petits points où on a besoin de précision. Mais d'abord, je voudrais commencer par les exilés fiscaux, parce qu'on a vu justement, c'est révélé par nos confrères du Figaro, que finalement, les riches quittent moins la France. La réforme de la fiscalité du capital porte ses fruits. C'est l'enseignement que vous pouvez en tirer, Laurent Saint-Martin.
Ça vous étonne ?
Je ne sais pas.
Je pense que vous savez, comme moi, que la notion d'attractivité fiscale d'un pays est aujourd'hui extrêmement importante. Et c'est ce que nous avons fait dès le début de notre mandat, à l'automne 2017, quand nous avons fait la réforme de l'ISF, quand nous avons fait la réforme de la fiscalité sur le revenu du capital, la fameuse flat tax. On n'a pas fait un cadeau aux riches, comme on a voulu le dire beaucoup trop souvent. On a rendu attractif notre pays pour investir.
Oui,
et quand vous rendez attractif votre pays pour investir, alors oui, effectivement, un certain nombre de personnes, dont des grandes fortunes, mais pas que, restent dans votre pays pour investir dans les entreprises. C'est ça qui permet aujourd'hui aux entreprises d'investir elles-mêmes. C'est ça qui leur permet de créer des emplois. Si aujourd'hui, ce que vous oubliez de dire dans votre information, c'est qu'il faut la corréler avec le fait qu'il y a 260 000 créations nettes d'emplois en 2019. Mmh. Ça va de pair.
263 000, je crois même.
Oui, ça va de pair. C'est-à-dire que quand vous avez les capitaux qui restent dans votre pays, ils investissent dans les entreprises.
Est-ce que ces ça
entreprises,
va de pair enfin, j'ai envie de dire, pour vous, c'est évident, mais pour des tas de gens, c'est pas évident. Hein, parce que sinon, il n'y aurait pas ce climat social bizarre dans lequel
mais y a aussi un climat...
Macron dirige, etc.
Mais y a aussi
alors
un...
ici, nous, on...
Il y a aussi un climat très...
On est plus mesuré.
Oui, mais le climat social, il est immédiat. Et c'est normal. Il y a des besoins dont on a hérité, malheureusement, en venant en 2017, qui étaient déjà là et qui prennent du temps, effectivement, à réparer. On peut parler des hôpitaux publics, on peut parler d'un certain nombre de grandes difficultés sociales dont souffre notre pays, et on les répare, mais ça prend du temps. Et puis il y a mettre tout de suite sur la table, dès qu'on arrive, un climat propice à l'investissement. Un climat propice à l'investissement, c'est pas faire des cadeaux, encore une fois. C'est créer de l'emploi à moyen terme. On commence à en voir les fruits aujourd'hui. Je vous fais le pari que d'ici à 2022, les créations nettes d'emplois continueront, le chômage continuera à baisser, et ce sera aussi parce qu'on aura réussi à retenir ceux qui investissent dans notre pays. Et vous savez, les fortunés, ceux qui partaient avant par rapport à une fiscalité confiscatoire, sont pas les grands méchants dans notre pays. On peut les appeler premiers de cordée, on peut les appeler comme on veut. En attendant, ce sont les personnes qui investissent. Voilà. Et ça me semble important de le rappeler parce que, force est de constater que dans le quinquennat précédent...
C'est pas très compris en tous les cas. Nous,
si,
on comprend.
Je crois que les Français comprennent très bien que quand il y a moins d'exilés fiscaux, il y a plus d'investissements dans notre pays et que c'est bon pour l'emploi.
Non, c'est pas sûr. Ça fait un peu le président des riches. Voilà. C'est ça qu'on reproche à Emmanuel Macron.
C'est quoi la priorité de notre pays? C'est que le chômage baisse ou c'est qu'on appelle Emmanuel Macron président des riches ou président d'autre chose? Ce qui compte, c'est les résultats. Les résultats, ils sont là.
Est-ce qu'il fallait faire Europacity ou pas? Parce que là, ça crée de l'emploi, hein, en l'occurrence. C'est ce que disent, dans tous les cas, les élus sur place.
Oui, d'ailleurs, ma collègue Zif Kapark a posé une très bonne question au gouvernement hier. C'est un sujet délicat, difficile, parce que derrière, effectivement, il y a des projets de développement économique, des projets d'emploi. Il faut aussi comprendre que c'était un projet qui n'était plus compatible et dans l'air du temps par rapport à nos ambitions en termes de transition écologique. Il faut aussi savoir l'entendre. Donc il faut trouver maintenant d'autres projets à développer qui soient davantage respectueux de l'environnement. EuropaCity ne l'était manifestement pas assez et qui puissent permettre de donner des nouvelles perspectives d'emploi et de développement économique.
Sur justement, puisqu'on parle de grands... Je recevais Alain Griset, le président de l'UDP. Il disait que c'est le lobby de la grande distribution qui a poussé pour ce texte sur projet de loi sur le travail de nuit. Est-ce que vous y êtes favorable? Vous pensez, vous dites surtout, il faut surtout le repousser. Ça n'a aucun sens. Quelle est votre position, Laurent Saint-Martin?
Ah, le texte a du sens. Ça, je peux vous l'assurer, puisqu'il s'agit de mettre en conformité, en cohérence, une pratique, honnêtement, qui existe par exemple à Paris, mais pas que, avec le droit et les textes qui aujourd'hui sont un petit peu en décalage. Aujourd'hui, vous avez finalement, de façon illégale, des commerces qui déjà ouvrent après 21h. Bon, il faut remettre tout ça en conformité. C'est d'ailleurs demandé par un grand nombre d'employés.
C'est pas. En tous les syndicats que j'ai reçus, là, classe ouvrière, la grisette, etc. Ils sont, enfin, tous, ils disent, il n'y en est même pas question.
Vous n'avez pas reçu la CFDT, alors, par exemple?
Non, parce que la CFDT... J'ai reçu Laurent Berger, mais le texte n'était pas encore connu, parce qu'il est un peu...
La CFDT, par exemple, a présenté plutôt un avis favorable, modulo, et c'est très important, des compensations financières qui sont, finalement, celles qu'on peut voir dans les zones touristiques internationales. L'idée...
Oui, mais dans un petit commerce, il y a deux personnes, trois, comment il fait pour travailler la nuit? Sinon, ça favorise les grandes surfaces, c'est sûr.
Non, pas forcément. C'est un texte qui va concerner tout le monde, les tout petits commerces alimentaires comme les moyennes surfaces que nous avons à Paris. Et encore une fois, ils vont faire un peu la même chose qu'aujourd'hui, sauf qu'ils vont être dans les règles. Et puis, ça va davantage protéger et mieux rémunérer les employés. Donc, c'est un moment de concertation dans lequel nous rentrons. C'est ça qui s'est passé. C'est pas un abandon du texte. C'est un moment de concertation parce que, voilà, ce n'est pas...
En tout cas, le gouvernement, le Premier ministre a compris que c'était quand même un peu, en ce moment,
Il faut que ce soit bien compris. Donc, il faut parfois prendre un peu plus de temps. Pourquoi pas prendre quelques mois là-dessus pour bien s'assurer que toutes les parties prenantes...
Mettre le feu aux poudres alors qu'on a pas besoin.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un texte sensible. Travail de nuit, c'est par définition insensible, mais c'est pas forcément un texte qui est rejeté par les employés. Je pense même que c'est plutôt l'inverse. Par contre, il faut expliquer les compensations financières, il faut expliquer pourquoi ça les protège mieux, et il faut expliquer aussi sur la grande distribution.
Il faut aussi expliquer
à la grande distribution.
C'est un texte de la grande distribution, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'UDEP.
Non, mais vous avez aussi un certain nombre d'acteurs de la grande distribution qui ne sont pas favorables à un certain nombre de compensations qui sont proposées. Donc vous voyez que ça s'appelle de la concertation, ça s'appelle du dialogue social finalement. Donc c'est sain de prendre le temps d'en discuter. Mais c'est mettre encore une fois en conformité. Et c'est surtout tirer vers le haut, c'est mettre au niveau des ZTI, des zones touristiques internationales, ce qui aujourd'hui existe en moins 10 ans dans les commerces alimentaires.
Sur le budget 2020. C'est un budget finalement qui sert à quoi? Enfin, il faut un budget, on est bien d'accord, on connaît bien.
Oui, au-delà de la nature constitutionnelle du texte.
Non, voilà, au-delà de ça, on a l'impression que c'est les autres budgets, étaient des budgets d'engagement, de réforme. Là, c'est un budget qui est entre deux.
C'est pas un budget entre deux, c'est un budget qui rend du pouvoir d'achat comme jamais on a rendu du pouvoir d'achat aux Français. C'est un budget qui baisse l'impôt sur le revenu à hauteur de 5 milliards d'euros. C'est un budget qui continue de doubler la prime d'activité. Rappelez-vous, en 2017, on est arrivé, la prime d'activité, c'est à peu près 4 milliards et demi sur le budget de la Sécu. C'est aujourd'hui 9 milliards. On a doublé le montant de la prime d'activité. On a baissé de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu. On a terminer la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Au final, c'est plus de 17 milliards d'euros qui sont rendus sur le budget 2020. Budget, je parle toutes administrations publiques, c'est budget de l'État et de la Sécurité sociale. On rend plus de 17 milliards d'euros français. Si ça, c'est un budget d'entre-deux, alors qu'on n'a jamais rendu autant de pouvoir d'achat aux Français.
Comment vous expliquez ce décalage?
Expliquez-moi, parce que je crois que...
Comment vous expliquez ce décalage entre vos convictions, ce que vous dites, Laurent Saint-Martin, et puis lorsqu'on voit un peu le climat difficile, quand même, qui existe aujourd'hui, il y a cette mobilisation. Mobilisation, certes, qui est autour des retraites, mais on voit bien que c'est aussi...
Il ne faut pas tout confondre. Un budget 2020,
mais
il rentre en application.
Il y a un peu une contagion. C'est
un budget 2020, comme son nom l'indique, il rentre en application le 1er janvier 2020. Donc, vous ne pouvez pas demander aux Français de le ressentir le 13 novembre 2019. Mais je le dis à vous et à ceux qui nous regardent. Les Français, je pense, comprennent très bien que quand on vote un budget à l'automne, il se remet en rentre en application et il est promulgué le 1er janvier de l'année suivante. Ce qui compte, effectivement, vous avez raison, c'est le ressenti du pouvoir d'achat des Français. C'est pour ça qu'on met le paquet. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de pouvoir d'achat rendu aux Français. On le fait aussi par conviction. Nous pensons que les impôts sont trop importants dans ce pays. Nous pensons que les prélèvements obligatoires, que ce soit sur les ménages ou sur les entreprises, sont trop importants. Mais il n'y a pas d'incompréhension. Je pense que vous confondez deux choses. Vous confondez des contestations sociales qui peuvent exister.
Il y a beaucoup de mouvements qui existent un peu partout.
Vous me parlez de tout en même temps. Si vous me parlez de la contestation qu'il y a, par exemple, le 5 décembre sur le rail, autour de la réforme des retraites. D'accord,
mais c'est pas uniquement sur le rail.
Parce que c'est vous qui me parlez de plusieurs événements en même temps. Moi, je vous dis, il est nécessaire de les comprendre un à un, parce que sinon, effectivement, derrière, vous allez me dire la réponse n'est pas adaptée. C'est normal. Il y en a un qui va concerner la réforme des retraites, qui est une réforme de structure nécessaire pour sauver le système de répartition des retraites de notre pays. Et puis, vous me parlez à côté des Gilets jaunes, qui est effectivement un mouvement social né de la taxation sur les carburants, sur lesquels nous sommes revenus et sur lesquels nous avons répondu.
On parle de ça toute la journée.
Mais sur lesquels nous avons répondu. Mais je réponds à votre question.
Oui,
nous avons répondu
pour vous,
par 17 milliards.
On va être clair, il n'y a aucune contagion. possible, il n'y a aucun... Là, c'est vraiment le 5 décembre, ça sera sur la SNCF.
Oui, bien sûr.
Terminé, d'accord. Non, mais c'est une analyse de votre...
Pas forcément, analyse, j'ai pas dit que la SNCF, j'ai dit que c'était effectivement un mouvement de contestation qui partait de là, autour de la problématique des retraites. Si on n'est pas capable d'entendre et de faire du dialogue, effectivement, mouvement par mouvement, et encore une fois, il ne me semble pas que l'histoire sociale de ce pays ait commencé en 2017. Et je crois que si on est assez honnête et on regarde ce qui a été rendu au pouvoir d'achat depuis l'année 2017, l'augmentation des budgets qui ont été faits pour mieux protéger les Français, je pense aux policiers et aux gendarmes, je pense à la justice, je pense aux armées qui augmentent à chaque fois de près de 2 milliards d'euros. Je pense que si on est assez objectif et qu'on regarde à la fois ce qu'on a rendu aux Français, à la fois comment on a investi pour mieux les protéger, alors moi je vous fais le pari effectivement que la contestation sociale qui n'est pas héritée de 2017 mais qui est bien antérieure, s'apaisera. Pourquoi ? Parce que les Français ressentiront effectivement cette hausse de pouvoir d'achat.
D'accord, donc il y a plutôt des jours meilleurs qui arrivent devant vous, quoi.
Mais écoutez, moi, quand je vois le chômage diminuer dans notre pays, quand je vois l'investissement reprendre dans notre pays, quand je vois les entreprises, effectivement, avoir des projets de développement, quand je vois des créations nettes d'emplois, quand je vois du pouvoir d'achat qui revient au sein des ménages et notamment de la classe moyenne, oui, je crois effectivement que l'avenir s'éclaircit.
Écoutez, espérons que vous allez être entendu. Ça va être dans les prochains jours, hein. En tous les cas. Sur les efforts de la France, les efforts en termes de dépenses publiques, parce qu'il y a eu un petit coup de semonce de Bruxelles pour dire, mais finalement, il ne se passe pas grand chose en termes de dépenses publiques et d'efforts structurels. Vous répondez quoi ? Vous dites on est dans un contexte très particulier, de taux bas, historiquement bas, donc c'est le moment on a moins besoin de faire des économies que si on avait des taux qui étaient à 7%.
Avant la question des taux, il faut assumer le modèle dans lequel nous vivons en France qui n'est pas le modèle de nos voisins. Nous avons un pays avec une dépense sociale beaucoup plus élevée, à peu près 34% du produit intérieur brut, et en face de ça, nous avons des taux de prélèvement obligatoires qui sont importants. C'est notre modèle français, et je vous assure que la très grande majorité des Français y tient à ce modèle français. Quant à savoir, est-ce que la dépense publique, elle est bien contenue ? La réponse, c'est oui. Je vais juste vous donner des chiffres techniques, puisqu'on est sur une chaîne de gens qui regardent la technicité.
Non, qui aiment l'économie.
Oui, mais donc, et la politique, et donc une certaine dose de technicité. Sur notre quinquennat, la hausse de la dépense publique, elle est estimée à plus 0,4% du PIB. C'est deux fois mieux que sous le quinquennat de François Hollande, c'est trois fois mieux sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Là où il y avait une crise financière, donc c'était un tout petit peu différent.
Mais pas sous François Hollande, il me semble. Oui. Nous contenons mieux la dépense publique que nos prédécesseurs. Ça, c'est factuel. Est-ce que demain, on peut faire encore mieux en la diminuant ? Probablement que oui. Je pense que ce que nous faisons en mutualisant un certain nombre de services publics, notamment par les maisons France Service, notamment par la digitalisation, je pense là à l'administration fiscale. Effectivement, ce sont des économies à moyen terme qui sont attendues et là qui permettront de davantage baisser la dépense publique.
Et qui se font naturellement, donc ça ne sert à rien aujourd'hui d'agiter le chiffon rouge, quoi.
Mais encore une fois, la dépense publique est contenue mieux que tous les quinquennats précédents. Donc c'est à noter.
Quand vous parlez à Valérie Rabault, elle n'est pas d'accord avec vous. Donc,
mais c'est factuel. C'est factuel.
Alors, à propos de faits, justement, Emmanuel Macron, j'imagine que vous avez lu son interview dans The Economist où il se lâche un peu. Il met les pieds dans le plat. C'est intéressant sur la forme, c'est un peu fort. Hein, mais il dit la question des 3%, la règle des 3%, c'est un débat d'un autre siècle. Vous êtes d'accord avec lui?
Il n'a pas tort de dire qu'aujourd'hui, dans un contexte de taux bas tel que nous le vivons, pas que le 3% d'ailleurs, les critères maastrichtiens sont effectivement un petit peu has-been. Ça, c'est vrai. Ce qui compte, c'est le déficit structurel. Ce qui compte, c'est de savoir si le pays fait les bonnes réformes à moyen-long terme pour rétablir un certain nombre de politiques et de ministères qui datent, eux aussi, peut-être, de notre siècle. Ça, c'est vrai que ce sont les questions, à mon avis, que devrait davantage regarder la Commission et pas uniquement les 3%. En attendant, les règles sont celles qu'elles sont aujourd'hui et nous sommes quand même le premier gouvernement à avoir diminué le déficit de façon telle que nous sommes en deçà des 3%, trois années consécutivement. Ça n'a pas été fait depuis plus de 20 ans. Donc, encore une fois, quand il y a des règles du jeu, on les respecte. On les respecte, contrairement à d'autres. Et ça veut pas dire qu'il faudra pas les changer à moyen terme. Et vous savez, le pacte de stabilité, qui est aujourd'hui la norme qui guide effectivement notre politique économique européenne, est effectivement un peu dépassé dans ce contexte de taux bas, puisque nous devrions davantage réfléchir sous forme d'investissement et nous devrions peut-être un petit peu sortir des ratios de 60% de dette et 3% de déficit public comme seule boussole. Ça, j'en suis d'accord avec ce qu'il dit.
Vous disiez tout est bouclé sur le budget de 2020. Maintenant, on voit qu'il y a qu'il y a quelques petites zones d'ombre ou zones d'interrogation, notamment sur la question du PTZ, parce qu'il y a l'ambition de supprimer le prêt à taux zéro, de supprimer totalement le prêt à taux zéro. Il l'a été dans certaines zones et maintenu dans les zones rurales, par exemple. Et là, il y a une petite fronde au sein de La République En Marche. Il y a une quarantaine de députés qui, je ne sais pas si vous en faites partie ou pas, à mon avis, ça m'étonnerait.
Ce qui me fait sourire, c'est votre réflexe de parler de fronde dès qu'il y a du débat interne au sein d'un groupe.
J'ai dit que c'est une petite fronde.
Non, non, c'est absolument pas une fronde. C'est un débat qui est très sain parce que, effectivement, à l'heure des taux aussi bas.
Soutenu par l'opposition,
oui,
hein, en l'occurrence.
Oui, mais c'est normal parce que c'est un vrai débat. À l'heure des taux aussi bas, la question de la pertinence du PTZ se pose. Et c'est normal. C'est-à-dire que le coût que l'État supporte pour ces dispositifs qui sont de moins en moins incitatifs, puisque par définition, les taux d'emprunt auprès des banques sont de moins en moins coûteux, la question se pose. Là où moi je mets une vigilance, c'est que si on supprime un outil, on sait très bien que c'est compliqué de le remettre plus tard si jamais il y avait des taux qui venaient à remonter. Ça, je pense qu'il faut qu'on fasse
attention. C'est le fait, on va expliquer à nos auditeurs et les spectateurs, c'est de le maintenir dans les zones rurales, par exemple.
Qui sont si demain les taux venaient à remonter, pour X raisons, et ça arrivera un jour, on sera bien content quand même d'avoir toujours cet outil sous la main. Donc peut-être qu'il faut le réduire parce qu'il n'est pas pertinent partout et qu'il faut effectivement en profiter pour que l'État fasse un peu d'économie sur cet outil-là. Le supprimer totalement, je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je pense qu'il vaut mieux garder sous le coude et avoir cet éventail, cet accordéon possible en fonction de son incitativité.
Et quand vous dites ça, j'ose dire, c'est sans doute la position qui va être retenue par le gouvernement ?
Je n'en suis pas sûr. Aujourd'hui, l'arbitrage n'est pas donné. Je vous donne mon opinion personnelle.
Il sera rendu quand ?
Là, dans les tout prochains jours, puisque nous votons les articles non rattachés à la fin de la semaine.
Ouais. Donc ça c'est un point important. Malgré tout, alors on peut dire fronde, discussion amicale, il n'en demeure pas moins que c'est...
La fronde, c'est pas ça.
Il y a quand même
si la fronde, c'est sur un article, un amendement d'un article, d'un texte de loi...
Des gens qui sont pas d'accord.
Des gens qui débattent. Ouais. En démocratie représentative et parlementaire, je trouve ça très bien.
Mais c'est toujours un peu la fracture gauche-droite au sein de La République En Marche.
Mais ça, c'est votre grille de lecture depuis 2 ans maintenant.
Non, c'est la biographie de
Voilà. D'accord, d'où est-ce que je viens, moi? Vous le savez ou pas?
Non.
Bon, je viens de la gauche. Est-ce que vous l'auriez dit par rapport à la politique économique que je mène?
Non, mais par rapport à ce que vous venez de dire sur le PTZ, oui.
D'accord. Bon, vous voyez que tout ça n'a plus grand sens de savoir si on vient de la gauche ou de la droite. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on fait une politique économique cohérente pour notre pays, qui permet de baisser les impôts, qui permet de baisser la dépense publique, qui permet de relancer l'investissement dans notre pays. Tout ce qui est hors de ces radars n'est pas au sein de La République En Marche. C'est là-dessus qu'il faut le voir. Est-ce qu'une idée est de gauche ou de droite? On s'en fiche. C'est justement pour ça qu'on a créé ce mouvement et qu'on a dépassé les partis. Valérie Rabault, vous le citiez tout à l'heure, a très souvent des idées très pertinentes et très souvent d'accord avec nous. Charles de Courson, qui est plutôt de l'autre côté, a aussi des idées très pertinentes et est souvent d'accord avec nous.
Des connaisseurs de la matière budgétaire.
Exactement. Il y en a une qui est de gauche, l'autre qui est de droite. Quelle importance? Franchement, quelle importance. Ce qui compte, c'est de relever ce pays.
Vous regardez sur la question de la baisse d'imposition des impôts de production. Bruno Le Maire a parlé, donc a présenté son pacte productif avec à la clé une baisse de 77 milliards. Enfin, on n'y est pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poser la question là-dessus. Mais est-ce qu'il raconte quelque chose là dans le budget 2020?
Non, il n'y aura rien. La réponse est claire, il n'y aura rien dans le budget 2020. Ouais. Par contre, c'est une négociation qui est un peu compliquée parce que rentre en jeu une troisième partie qui, pas des moindres, qui sont les collectivités territoriales. Vous faites rentrer les collectivités territoriales avec qui on a de très bonnes relations, c'est normal, ça prend un peu plus de temps et donc c'est un travail un peu plus de longue haleine. Moi, j'ai bon espoir que dès le budget 2021, on commence à voir les premières prémices de la réforme des impôts de production parce que les entreprises le demandent à juste titre parce que c'est surtout un vrai maquis et ça fonctionne pas bien. Et puis, vous avez raison, au niveau d'un compte de résultat, c'est pas pertinent.
Avant même de commencer
exactement
quoi que ce soit et de générer des bénéfices.
En termes de business, c'est pas pertinent comme imposition, mais il y a les collectivités qui sont une partie prenante importante, donc ça ne se fait pas de façon bilatérale entre l'État et le monde des entreprises, ça se fait à trois et ça prend un peu plus de temps.
Donc ça sera en 2021, il y aura quelque chose.
J'espère qu'à partir de 2021, on commencera effectivement à avoir les premiers résultats de ce travail.
Mais est-ce qu'on peut avoir une trajectoire de baisse de 10 milliards, comme le disait Agnès Pannier-Runacher ici
Il faut donner des objectifs chiffrés, sinon on sait qu'on ne fait jamais rien. Donc oui, je pense qu'il faut rester dans ces objectifs-là. Il faut que le patronat nous accompagne là-dessus. Il faut que les collectivités territoriales y voient aussi leur intérêt. Donc c'est un travail qui lance. Agnès Pannier-Runacher est très impliquée là-dessus.
Toute petite question, parce que dans l'occurrence, c'est sur les chiffres macro, donc c'est plutôt une grande question, mais une réponse peut-être rapide. On a vu les chiffres sur la croissance de la Banque de France, donc plus 0,2%. petite faiblesse. Est-ce que ça doit avoir un impact peut-être sur l'équilibre du budget ou pas,
non, parce que
global,
non.
Est-ce que ça nécessite une petite rectification à la marge ou pas?
Non, parce que c'était quand même anticipé. Il y avait un espoir qu'il y ait un petit regain de fin d'année qui permette d'arriver à 0,3%. Il n'aura manifestement pas lieu. Bon, voilà, entre 0,2 et 0,3%, on ne va pas retourner le budget et l'article d'équilibre. On ne va pas, surtout pas faire des coupes de rabots budgétaires parce que effectivement la croissance sera de 0,2%. Surtout qu'elle s'explique, hein, cette croissance un peu déceptive sur la fin d'année. On a voilà une industrie automobile qui est par exemple un petit peu plus en deçà que ce qui était anticipé. La construction aussi. Voilà. À partir du moment où ça ne vient pas de ce que l'on maîtrise, nous, c'est qu'il n'y a pas de raison de modifier notre schéma à nous.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Laurent Saint-Martin, donc, rapporteur de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, député La République En Marche, aile gauche du Val-de-Marne, et qui est droit dans ses bottes. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain, bien sûr, 8h15. Je serai avec l'ambassadeur d'Allemagne. Et puis, on se retrouve, bien sûr, à 12h, 13h pour l'orage. Bonne journée.